Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monseigneur, chers fidèles, dans un an, nous célébrerons le centenaire des apparitions de la très sainte Vierge Marie à Fatima. Ce sera un anniversaire important parce que les apparitions de Fatima sont le couronnement de toutes les apparitions mariales du XIXe et du XXe siècle, et parce qu'elles sont en même temps la clé d'interprétation de toute l'histoire contemporaine. Tous les malheurs qui arrivent à nos pays depuis cette époque sont dus au fait que nous restons sourds aux appels de Notre-Dame. Mais en même temps, Fatima est un message d'espérance. Notre Seigneur a certifié à sœur Lucie qu'il ne sera jamais trop tard pour recourir à Jésus et à Marie. Mais cette année, nous fêtons un autre centenaire, le centenaire des apparitions de l'ange du Portugal aux trois enfants de Fatima, ces apparitions qui ont eu lieu au printemps, à l'été et à l'automne 1916, en préparation au grand message de Notre-Dame. Commençons par l'apparition de printemps. Alors, pour ces apparitions, sœur Lucie ne donne pas de date précise. Elle dit « J'étais trop petite, je ne savais jamais quelle était la date. » Enfin, les arbres étaient en fleurs, ça devait être le printemps. François avait 8 ans, Jacinthe 6 ans et Lucie 9. Les enfants avaient été conduire les brebis sur une colline qui s'appelle le Cabesseau. À midi, ils avaient pris leur repas. Après leur repas, ils avaient récité le chapelet. C'est beau de voir des enfants qui sont tout seuls, qui passent la journée ensemble et qui pensent à prier ensemble. Ensuite, après le chapelet, ils se mirent à jouer. C'était normal, ils l'avaient bien mérité. Mais ils méritaient quelque chose de plus important encore. Écoutons le récit de sœur Lucie. Cela faisait un certain temps que nous étions en train de jouer lorsqu'un vent assez fort secoua les arbres et nous fit lever les yeux pour voir ce qui se passait, car la journée était belle. Normalement, il n'y avait pas de vent. Cela fait penser au vent qui attira l'attention de Sainte Bernadette à Lourdes et qui lui fit lever les yeux vers la grotte. David, dans un psaume, dit à Dieu, « Vous prenez les vents pour messagers. » C'est une application. Nous vîmes alors, continua Lucie, au-dessus des oliviers et se dirigeant vers nous, quelqu'un qui avait l'apparence d'un jeune homme de 14 ou 15 ans, plus blanc que la neige, que le soleil rendait transparent comme s'il était en cristal et d'une grande beauté. En arrivant près de nous, l'ange nous dit « Ne craignez pas, je suis l'ange de la paix, priez avec moi. » Et s'agenouillant jusqu'à terre, il courba le front jusqu'au sol. Poussés par un mouvement surnaturel, nous l'imitâmes et nous répétâmes les paroles que nous lui entendions prononcer. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne vous adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Après avoir répété cette prière trois fois, il se releva et nous dit « Priez ainsi, les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. » Pour bien comprendre l'importance de cette prière, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Dans le monde civil, la déchristianisation organisée par les loges maçonniques n'a cessé de progresser. L'Europe a été de révolution en révolution. En 1916, nous sommes en pleine première guerre mondiale, qui est une nouvelle étape pour l'organisation du mondialisme, du monde sans Dieu. En effet, cette guerre aboutira à la disparition du dernier empire catholique, l'Empire d'Autriche-Hongrie, et cette guerre verra s'installer en Russie la révolution communiste, dont le but, disait le père Calmel, était de répandre à travers la planète les institutions et les mœurs de l'athéisme. Nous y sommes. Dans l'Église, le pape Saint Pie X venait de mourir il y a 2 ans. Son successeur, le pape Benoît XV, n'avait pas jugé utile de continuer les sages mesures de prudence que le pape Saint Pie X avait prises pour endiguer le modernisme, ce qui fait que celui-ci continuait à se répandre comme un cancer à l'intérieur de l'Église, sournoisement, insidieusement. Il aboutira à la destruction totale de la foi et de la morale, et nous y sommes. Et la conséquence de cette dégradation dans le monde civil et dans l'Église, eh bien, c'est que les âmes tombent de plus en plus nombreuses en enfer. Fatima, c'est alors une intervention du ciel dans notre histoire pour ramener à sa vocation première l'homme qui s'est détourné de Dieu. Et cette première prière apprise aux enfants par l'ange du Portugal décrit parfaitement le retour de la créature à Dieu. Mon Dieu, je crois. La première étape du salut, c'est la foi. Il faut que les hommes d'aujourd'hui rompent avec les préjugés de ce monde moderne qui leur fait croire que le but de la vie, ce sont les biens matériels avec toutes les jouissances qu'ils apportent. Il faut que les hommes d'aujourd'hui se mettent à genoux et se laissent enseigner par notre Seigneur et par son Église lorsqu'elle parle infailliblement. J'adore. L'acte de foi conduit à l'adoration. Elle met l'homme en face de Dieu. Et l'homme réalise qu'il n'est qu'une créature en face de son Créateur, une créature qui dépend en toute chose du Dieu qui l'a créée. Monseigneur Lefebvre aimait répéter souvent que Dieu seul est l'être qui existe par lui-même et qui vit par lui-même, tandis que toutes les autres créatures, humaines ou angéliques, elles sont dans l'existence, elles ont été tirées du néant par Dieu et elles vivent par Dieu à chaque instant. L'apôtre Saint Paul, et encore plus par rapport à notre salut, l'apôtre Saint Paul dit que nous ne pouvons pas avoir une seule bonne pensée utile pour notre salut sans une grâce de Dieu. Voilà la dépendance dans laquelle nous sommes et que l'homme moderne devra reconnaître. Lui qui ne parle que d'indépendance, qui ne veut que l'indépendance. J'espère. Eh bien, cette constatation de notre dépendance absolue à l'égard de Dieu et de notre fragilité radicale doit nous conduire à nous appuyer sur Dieu par la prière et par les sacrements. Espérer. Surnaturellement, espérer chrétiennement, ce n'est pas s'appuyer sur ses propres forces, c'est s'appuyer sur la toute-puissance divine. Alors, lorsque, par la prière et les sacrements, la grâce de Dieu vient en nous, qu'elle nous élève et que la toute-puissance divine vient en nous, alors nous pouvons continuer la prière et dire à Dieu, « Je vous aime ». Attention, aimer Dieu, ce n'est pas nécessairement avoir de grands sentiments. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Les astres, les animaux, toute la nature qui nous entoure chantent la gloire de Dieu en faisant la volonté de Dieu, c'est-à-dire en suivant ses lois. Mais tous ces êtres inintelligents ne s'en aperçoivent pas, ce n'est pas méritoire pour eux. Mais ils chantent la gloire de Dieu par leur existence. Tandis que les hommes sont appelés à chanter la gloire de Dieu en lui obéissant volontairement. La seule raison de l'existence humaine sur cette terre, c'est de chanter la gloire de Dieu en lui obéissant, et c'est la condition du bonheur éternel de l'homme. Et le prophète David, dans un psaume, dit que les créatures qui ne font pas la volonté de Dieu sont inutiles. Quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu, sa vie est inutile. Et tous les jours, dans le Notre Père, nous demandons au bon Dieu la grâce de faire sa volonté, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que sur la terre, il y ait de plus en plus d'hommes qui fassent votre volonté, c'est ce que nous demandons dans le Notre Père. Et comme aujourd'hui, les hommes se sont détournés de la volonté de Dieu, eh bien, après avoir enseigné aux enfants de dire souvent « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime », l'ange leur demanda d'ajouter « Et je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas ». Nous comprenons très bien que nous ayons à demander pardon pour nos propres péchés. Pouvons-nous demander pardon pour les péchés des autres? Eh bien, en demandant pardon pour les péchés des autres, pour les péchés des autres hommes, eh bien, nous nous faisons en quelque sorte leurs ambassadeurs auprès de Dieu pour leur obtenir la grâce de la conversion. Voilà ce que réalise cette prière. Mais pour cela, il faut aller plus loin. Car la prière ne suffit pas. Et c'est la seconde apparition de l'ange qui eut lieu au cours de l'été 1916. Continuons le récit de sœur Lucie. Nous étions en train de jouer sur le puits lorsque soudain nous vîmes le même ange près de nous. « Que faites-vous » dit-il. « Priez, priez beaucoup. Les cinq heures de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez sans cesse au Très-Haut des prières et des sacrifices. » Comment devons-nous nous sacrifier ? Demanda Lucie. De tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. De cette manière, vous attirerez la paix sur votre patrie. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que Dieu vous enverra. La leçon de cette seconde apparition de l'ange, c'est que le péché demande réparation. On l'oublie souvent. On pense que si nous sommes pardonnés, très bien, ça suffit. Mais c'est du protestantisme, cela. Pour Luther, notre Seigneur ayant réparé tous nos péchés, eh bien, nous n'avons plus rien à faire. Le pape Pie XI, au contraire, dans son encyclique sur le Sacré-Cœur, dit que pour nous, réparer est une question de justice et une question d'amour. C'est une question de justice, parce que par nos péchés, nous avons entraîné, par chaque péché, nous entraînons un déséquilibre dans l'ordre des choses qui chantent la gloire de Dieu. Nous avons, par nos péchés, nous causons un désordre en accordant à notre volonté une satisfaction à laquelle elle n'avait pas droit. Cela cause un désordre. Et ce désordre, nous devons le réparer en privant notre volonté proportionnellement de quelque chose qui lui plaît, qui lui satisfait. Voilà. Et la réparation est aussi une question d'amour. Si nous aimons vraiment notre Seigneur, nous ne pouvons pas le laisser porter seul le poids de tous nos dérèglements, le poids de tous nos péchés. Je dirais même que c'est une question de décence. Saint Thomas d'Aquin se pose ici la question, une question qui est au cœur du message de Fatima. Pouvons-nous réparer pour quelqu'un d'autre? Et il répond oui. À condition que nous soyons en état de grâce pour que cette réparation soit acceptée par Dieu. L'invitation de l'ange à faire des sacrifices pour la conversion des pécheurs et pour qu'ils ne tombent pas en enfer a complètement changé la vie des trois enfants. Que de fois en allant conduire leurs brebis sur les pâturages, en rencontrant un enfant pauvre, ils lui donnèrent leur nourriture, toute leur nourriture du déjeuner. Parfois aussi au cœur de l'été, en pleine canicule, parce qu'il fait chaud au Portugal au mois d'août, ils se privaient de boire. Ils mirent aussi une corde autour de leurs reins. Les enfants sont généreux et sont enthousiastes, sont facilement généreux et inventifs. Et l'année suivante, la Sainte Vierge devra même intervenir pour modérer leur pénitence. Et à Sœur Lucie, auprès de Sœur Lucie, elle insistera surtout sur la pénitence du devoir d'État quotidien, tous les renoncements que notre devoir d'État quotidien nous impose chaque jour. C'est cela la pénitence principale, avec l'acceptation des croix de la vie, offrir cela pour nos péchés en réparation des péchés des hommes. Elle dira que c'est le grand moyen de repousser les forces du mal qui menacent de submerger le monde aujourd'hui. Mais il fallait encore aller plus loin, et c'est l'objet de la troisième apparition de l'ange qui eut lieu en automne 1916. Les enfants gardaient leurs troupeaux. Après leur repas de midi, poussés par une inspiration divine, ils se mirent à genoux, le visage contre terre, répétant sans cesse la prière de l'ange, « Mon Dieu, je crois, j'adore, etc. » Lorsqu'ils aperçurent au-dessus d'eux une lumière inconnue, ils se levèrent et virent le même ange qui tenait dans sa main gauche un calice sur lequel était suspendue une hostie de laquelle tombaient quelques gouttes de sang dans le calice. Puis, laissant le calice et l'hostie suspendus en l'air, il se prosterna à terre et répéta trois fois cette prière. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Puis, se relevant, il prit de nouveau dans ses mains le calice et l'hostie, il communia Lucie avec l'hostie et il donna le sang du calice à François et à Jacinthe en disant en même temps « Prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par les hommes ingrats. Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. » Il se prosterna à nouveau, répéta la même prière, puis disparut. La leçon de cette troisième apparition, c'est que la prière et le sacrifice n'ont d'efficacité que par la prière et le sacrifice de notre Seigneur. Ce sacrifice de notre Seigneur qui est renouvelé sur l'autel à chaque messe. Alors, à chaque messe, apportons les prières et les sacrifices de toute notre vie. Déposons-les sur la patène du prêtre pour qu'il les offre à notre Seigneur et que notre Seigneur les offre à son Père. C'est ainsi que les prières et les sacrifices de notre vie auront une valeur rédemptrice pour nos péchés et pour les péchés des hommes. Tel est le sens des trois apparitions de l'ange du Portugal à Fatima en 1916, en préparation au grand message de Notre-Dame à notre temps. Nous pourrions nous préparer à l'année 2017 en insérant dans nos prières privées et familiales les prières enseignées par l'ange aux trois enfants en 1916. Nous pourrions aussi les apprendre par cœur. Si vous ne les avez pas ou si vous ne les connaissez pas, nous en avons mis des exemplaires que vous trouverez sur la table à la sortie de cette messe. N'hésitez pas à en prendre pour vous et à vous en faire les apôtres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.